Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International sur RFI avec un sommaire très espagnol aujourd'hui. Zizou ou l'art du contre-pied. Zinedine Zidane a quitté le Real Madrid ce matin sur une année blanche, mais sur un total de 11 titres avec ses merengues. L'aura de Zidane à la Casablanca est-elle intacte ou est-ce la fin d'une histoire passionnée entre le joueur, l'entraîneur, le club ? Quel avenir surtout pour l'entraîneur aux trois ligues des champions ? Eh bien, nous nous poserons la question. Zizou est le bal des entraîneurs au-delà des Pyrénées. En Italie, le champion d'Italie, Antonio Conte, quitte l'Inter Milan. À la Juventus de Turin, Massimiliano Allegri devrait remplacer Andrea Pirlo. En France, Mauricio Pochettino pourrait repartir du côté de Tottenham, alors que le champion de France, Christophe Galtier, est lui parti de Lille et est attendu dans plusieurs clubs. Il donnera sa réponse dans quelques jours. Et puis surtout, un premier trophée pour Villarreal. Le club espagnol de Valence remporte la Ligue Europa au tir au but face à Manchester United. Et Unai Emery gagne son 4e trophée européen dans cette compétition. Bonjour Marc Libra.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être là aujourd'hui.
Merci à vous.
Avec nous. Franck Simon est là. Notre grand ami de France Football.
Heureux de retrouver un petit peu de monde parce que vous savez, dans ma rédaction depuis quelques jours, c'est le désert des tartares. Bon, heureux de retrouver les copains, les amis et voilà.
Bon ben nous on est très heureux que vous soyez là, Franck Simon, et on comptera toujours sur vous. Bonjour Bruno Constant.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Non, les Anglais ne sont pas à la fête aujourd'hui, mais c'est pas
non,
grave.
Non, on vous a laissé une Coupe d'Europe, on gagnera la prochaine.
On vous a laissé, moi on m'a rien laissé. Mais bon. Radio Foot préparé avec Pierre Guérin et David Finzel, Laurent Salerno à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Zidane dit stop, lassé après une saison sans trophée.
Oui, c'est Zinedine Zidane.
Bien, c'est le départ annoncé de Zinedine Zidane.
Zinedine Zidane.
Le français quitte son poste d'entraîneur du Real.
Le Real dit respecter sa décision, parlant du départ d'une légende, une légende.
La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Il a quitté le Real Madrid sur un simple communiqué après une entrevue avec Florentino Pérez, son désormais ex-président. Zinedine Zidane a claqué la porte, on va en parler. Peut-être, on peut le considérer comme ça. La porte de la Maison Blanche à un an de la fin de son contrat. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a poussé Zinedine Zidane à partir ? Eh bien, nous allons d'abord poser la question à un de nos confrères espagnols de Marca, le magazine sportif de Madrid. Bonjour Pablo Polo.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être dans cette émission avec nous. Pablo, on a évidemment des questions à vous poser, mais on aimerait connaître votre avis. Pourquoi Zinedine Zidane décide-t-il de partir ? Est-ce par lassitude ? Est-ce par amertume ?
Bon, je pense que les sentiments de Zidane, spécialement cette saison, il n'a pas senti vraiment le soutien du Real Madrid du club, des dirigeants. Je pense qu'ils se sentent un peu trahis, peut-être, pas de la part spécialement de Florentino Pérez, mais des dirigeants. Et en fait, il a rencontré Florentino, le président a essayé de le faire changer d'opinion, mais bon, il connaît vraiment Zidane et on sait que quand il décide quelque chose, c'est délicieux. Difficile à les faire changer l'opinion, évidemment. Je pense que c'est surtout ça. Il y a eu des pressions des médias aussi. Pas des bons résultats parce que c'est une saison blanche, mais bon, en tout cas, il a disputé tous les tournois. Pas tous, mais la Liga et la Champions League presque jusqu'à la fin. Mais bon, c'est une décision. C'est la deuxième fois qu'il part. C'est pas la première, en tout cas. Je pense que cette fois, je pense que ça sera peut-être définitif. De une troisième fois, je le vois. Comme entraîneur, je le vois difficile, peut-être dans le futur, qui pourra tourner comme dirigeant ou comme directeur sportif, mais je ne le vois pas comme entraîneur. On verra, je ne sais jamais.
En fait, Pablo, Polo, ce n'était peut-être pas une énorme surprise, hein, parce que ces derniers jours, il avait laissé, un peu comme le petit poussé, des cailloux blancs sur son chemin. On sentait que cette fin paraissait un peu inéluctable, en fait, pour Zinedine Zidane.
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. J'écoutais, je posais des questions pendant la dernière conférence de presse de Zidane. Et je l'écoutais, et évidemment, l'impression qu'on avait tous, c'est que il allait partir, mais le fait que après le dernier match de championnat face à Villarreal, le fait qu'il est parti en vacances ou s'est reposé 2-3 jours et n'expliquait rien, on avait pensé que peut-être avait une petite chance de réfléchir et de rester. Je pense qu'il a vu que le Real n'a pas, peut-être dans ces 2-3 derniers jours, n'a pas vu une réponse du Real Madrid, du côté du Real Madrid pour qu'il reste. Ils sont que peut-être l'étape, c'est l'époque de Zidane. Son époque, c'est terminé au Real Madrid.
Est-ce que sa réputation ou son aura restent les mêmes malgré cette façon de quitter le club?
Oui, je pense. Parce que, écoutez, 3 Champions League consécutifs, 2 Ligas, la dernière Liga avec les Covid, l'arrêt de championnat. Et après cette année, je dirais qu'on n'a pas l'impression que le Real... C'est vrai que le Real doit toujours gagner des titres, 2-3-2, 1-2-3, Champions League, Liga. C'est vrai, l'exigence du Real Madrid, l'exigence, c'est énorme. Mais finalement, il a eu tellement de blessures, plus de 50 blessés, 10 ou 11 joueurs infectés de Covid. Et par contre, le Real Madrid a été capable de se battre, de disputer la Liga jusqu'à la dernière journée. Et il était en demi-finale de la Champions League. Peut-être le Real était un peu... Pas très bien habitué, parce qu'évidemment, quand tu gagnes une époque dorée, 3 Champions League, la Liga, mais peut-être la situation de le foot européen est en train de changer un peu. Je pense que les clubs anglais, PSG, City, qui ont de l'argent, évidemment, c'est chaque fois plus difficile pour le Real Madrid de la concurrence avec ces clubs.
Oui, c'était sans doute difficile de faire mieux. Pablo, quelles sont les réactions en Espagne? Est-ce qu'on est triste? Est-ce qu'on le regrette déjà? Est-ce qu'on le critique aussi?
Oui, il y a un peu de, premièrement, d'incertitude autour du Real Madrid, parce que le Real garde silence. C'est vrai qu'ils ont fait l'annonce du Zidane qui quitte le Real, mais après ça, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Il n'y a pas d'entraîneur. Des joueurs qui sont incertains, des joueurs très très importants comme le cas des Ramos, des Varane, le cas de Hazard qui est venu après 120 millions d'euros Chelsea qui n'a pas montré vraiment grand chose. Et premièrement, je dirais incertitude. Après, oui, des regrets un peu, parce que surtout des côtés de supporters, parce que ils sont peur. Qu'est-ce qu'il y a après Zidane? C'est une incertitude aussi. Il y a de nombre autour de l'entraîneur, il y a des Raoul, un ancien joueur, comme le cas des... Un cas pareil à Zidane, différents caractères, différents styles de jeu, différentes manières de diriger les équipes. Mais en tout cas, c'est un ancien joueur qui connaît très bien les clubs comme Zidane. Mais après, il y a des entraîneurs italiens qui, du côté des supporters, je pense qu'ils n'ont pas vraiment une motivation spéciale pour le supporter du Real Madrid.
Mmh. Donc, Zinedine Zidane part avec les honneurs, selon vous?
Oui. Écoutez, Zidane, il a toujours les honneurs comme joueur, comme entraîneur. Et cette 3 Champions League, c'est quelque chose que je ne sais pas si je vais regarder encore une équipe gagner 3 Champions League consécutives. Mais c'est un peu difficile. Alors ça, c'est grâce à Zidane aussi.
Oui, et ça restera à jamais la marque de Zinedine Zidane au Real Madrid. Merci beaucoup, Pablo Polo, d'avoir été en direct avec nous dans cette émission Radio Foot International. Hasta luego.
Hasta luego,
merci. Franck Simon, ce départ de Zinedine Zidane, il ne nous a pas véritablement surpris. Il y avait des rumeurs hein, déjà ces derniers temps, et évidemment les dernières heures où ça s'est précipité. Mais on avait l'impression qu'il parlait de lassitude, et c'est vrai qu'on a l'impression que ce banc-là, peut-être plus que d'autres dans d'autres clubs, essore un entraîneur.
Je pense qu'effectivement, il y a une douzaine de clubs dans le monde où, quand vous êtes en permanence sous le scruté par les médias et puis les supporters, et surtout avec cette distance imposée par la maladie du siècle, je pense qu'à un moment donné, effectivement, ça joue sur la santé, le mental, la psychologie d'un entraîneur, d'un homme comme Zidane. On n'a pas l'habitude de voir s'énerver. On voit plutôt un homme serein, un technicien serein, quelqu'un qui aime communiquer, qui a son banc, qui maîtrise, qui a prouvé durant toutes ces périodes de règne au Real Madrid que c'était un meneur d'hommes. Il savait gérer ses vestiaires. Et puis, il a souvent été minoré dans son travail aussi. Je l'ai dit plusieurs fois ici. Il a été minoré alors qu'en fait, il a réalisé des choses assez incomparables. Il a permis à certains aussi de franchir des caps. Je pense que voilà, et d'ailleurs ils ont commencé à le remercier. Il y en a un oui. Très connu, hein, KB9, Karim Benzema en particulier. Ouais. Et moi je pense qu'effectivement, pour lui comme pour d'autres, à un moment t'en as ras la casquette. T'aimes ton métier, mais t'es épuisé tout simplement. T'es drainé par ce métier. Ça ne s'arrête pas. T'es dans une lessiveuse constamment. Et c'est pas parce que tu prends 2 ou 3 jours de repos que tu vas te refaire la cerise. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a d'autres grands entraîneurs. Paix à son âme. Je pense à quelqu'un comme Gérard Houllier. Ça a pas été simple d'être dans cette lessiveuse, hein. Ouais. Et Dieu sait qu'il a fait des grands clubs.
Et c'était une autre époque.
Mais clairement, bon, on peut comprendre que, entre ce qu'a dit Pablo Polo et puis ce qu'on ressentait et pressentait. Vous faites un sondage, que ça soit Bruno ou Marc, je pense que on aurait tous dit la même chose, qu'on sentait qu'il allait pas rester, quoi, tout simplement, voilà. C'est pas qu'il y avait une fracture énorme, mais bon, il y en avait sans doute marre, quoi.
Marc, c'est pas parce qu'il ne se sent pas à la hauteur, lui qui est parti, qui est revenu un peu en sauveur, et finalement, il récolte quand même encore un titre de champion. Donc, c'est simplement peut-être aussi, il a l'honnêteté peut-être de le dire, que c'est la lassitude.
Oui, c'est la lassitude. Et puis, il faut pas oublier que, malgré le contexte, Pablo en a parlé, il a vécu des choses difficiles cette saison avec son Real. En octobre, on nous annonçait qu'il le licenciait comme chaque année.
Il y a eu deux moments dans la saison, hein.
Deux moments très importants où on a essayé encore de rentrer dedans. Et je pense que si aujourd'hui je suis supporter du Real, je suis très inquiet pour le Real parce que qui est capable aujourd'hui de revenir? Quand on voit ce qui s'est passé avec des Ramos, des Modric qui ont eu un retour de vie en Ligue des Champions avec Zidane, et tout le monde s'attendait pas à ça, mais finalement c'est très difficile pour eux. Donc il s'en va parce que je pense qu'il est arrivé au bout du bout avec David Bettoni qui est son associé, son ami, qui est vraiment la personne qui est très importante.
Il y en a d'autres avec lui.
Voilà, mais David est toujours collé. Quand on voit Zidane, David est dans l'ombre. Donc ces joueurs-là, je pense qu'ils sont arrivés au bout du bout. Après, on peut dire ce qu'on veut. Le plus grand, là on voit ce qui se passe aujourd'hui, peut-être on va parler par rapport à Lyon, ils se tirent tous dans les pattes. Lui, il part, Ramos, Benzema, Modric, tous les plus grands. Merci. Le Courtois, merci beaucoup. Oui. Merci.
Mais voilà, les
ça
messages,
veut tout dire. Hein. Ouais. Ça veut tout dire. Et aujourd'hui, si j'entends
un
supporter
et tout, c'est des remerciements en plus très chaud, très humains.
C'est chaud.
Voilà, très chaleureux. Très chaleureux. Très humain.
Et si aujourd'hui je suis supporter du Real Madrid, je sais ce que nous a apporté Zidane. C'est énormissime parce qu'il n'avait pas de vécu en tant qu'entraîneur. Et quand il fait 3 Ligues des Champions, c'est gigantesque. Donc aujourd'hui, je serais très, très inquiet pour la maison. Madrid.
Dans les critiques, Bruno Constant, allez-y, vous vouliez dire peut-être. Excusez-moi.
Bruno, il n'y en a pas. C'est un Marseillais, Zidane, il n'y en a pas.
vous vouliez dire quelque chose peut-être
il
avant. Va dégainer. Non, sur mais Zidane.
Il a été extrêmement critiqué cette saison. Voilà, énormément c'est ça. Critiqué. C'est il ça. Fait demi-finale de Ligue des Champions, il fait deuxième du championnat. Effectivement.
Et deuxième sur le fil, hein, c'est vraiment.
Ça se joue dernière journée. Ouais. Et c'est jamais suffisant pour le Real Madrid, et ça, c'est une exigence du Real, et c'est pour ça que c'est si dur d'entraîner le Real. Mais à l'intérieur même du club, il a été extrêmement critiqué. Il y avait des dirigeants qui ne croyaient pas en lui et des dirigeants qui le taillaient dans son dos et jusqu'aux oreilles de Florentino Pérez qui commençait à émettre des doutes. Et ça, quand c'est revenu à ses oreilles, ça l'a agacé profondément parce qu'il ne se sentait pas soutenu dans une saison qui était très particulière. Il a été dit qu'il y a énormément de blessures dues au Covid notamment. Et c'est une saison particulière. On l'a vu à Liverpool, on l'a vu au PSG, on l'a vu au Bayern Munich.
Partout, on l'a vu dans tous les clubs. Tu te souviens, en début de saison, Marc, avec Habib Bey et tout ça, je me souviens, on en causait. Habib avait insisté en disant cette saison post-première saison Covid, elle va être super compliquée pour ces grands clubs aussi. Quoi.
Et voilà, on a autre résultat. Chose, il ne faut pas oublier que Zinedine Zidane, c'est quelqu'un de très intelligent. Il connaît son vestiaire. Il sait que ce vestiaire, il arrive au bout. On voit que le milieu de terrain, Modric, Kroos, il arrive sur la fin. On voit que Sergio Ramos, il arrive sur la fin
également. Ça vieillit,
forcément. Est-ce qu'il peut à nouveau gagner avec ce vestiaire-là? C'est pas possible. Et puis surtout, il est libre. Lui, grâce à sa carrière de joueur, il a la chance de pouvoir partir quand il en a envie. Il a toujours fait ça avec le Real. Il est parti quand il en avait envie. Et moi, j'oublie pas autre chose au niveau du timing. C'est qu'on parle de peut-être la Juventus de Turin. On parle d'autres choses. Maintenant, on parle maintenant même du PSG. Mais dans un an, l'équipe de France, elle va être libre. C'est un de ses grands rêves d'entraîner l'équipe de France.
J'aurais pas dit un an, moi, tu vois.
Bah, et oui, voilà, c'est ça.
Didier Deschamps, pas dit non.
Si, ouais. Si, Didier Deschamps va aller à la Coupe du Monde, il fera la Coupe du Monde.
Ouais, peut-être après, que s'il remportait l'Euro, alors,
Dans plus d'un an, alors.
Non, non, je pense que Deschamps, s'il gagne, même s'il gagne l'Euro, un an de la Coupe du Monde avec une équipe qui a gagné l'Euro, il va dire, attends, j'ai encore une chance de gagner la Coupe du Monde.
Donc, à partir de novembre, décembre,
on ne lui voudra pas. Mais Zidane, il la veut, cette équipe de France. Et c'est peut-être le meilleur moment pour profiter de la génération Mbappé, que si tu pars dans un club pendant un an, tu rates le wagon de l'équipe
rate,
de France.
Pourquoi, il rate Mbappé au Real aussi.
C'est pas dit qu'il y a Annie sur lui.
Je plaisante, je suis pas dans les petits papiers.
Je sais pas si vous avez prévu, Annie, d'évoquer effectivement cette perspective d'une équipe nationale. On parle de la France parce qu'on ne peut pas imaginer que les Bleus, un jour, ne seront pas entraînés, dirigés par Zinedine Zidane.
Mais il l'a écrit.
Mais ça peut être... C'est écrit, voilà.
C'est même écrit après Deschamps.
Mais ça peut être après l'Euro, si... Attention. Oui,
mais Madame, ça pourrait pas être autre chose? Ça peut pas être autre chose, une Coupe du Monde au Qatar. On sait que le Qatar, il était l'une des figures.
C'était pas dans le bon sens.
Oui, il a prêté son nom à la candidature,
Très bien. Oui, mais c'est pas ce qu'il a fait de mieux, quoi.
Enfin, prêté. Certes. Oui. Bah, il les a fait gagner, en tout cas.
Contre un gros chèque.
Oui. Voilà.
Je suis d'accord.
Une équipe nationale. Il y a les Bleus de toute façon.
S'il devient entraîneur, il sera payé aussi.
Mais pourquoi, moi, je balance ça comme ça. Mais pourquoi pas une autre équipe nationale? Il y aurait donc
sélectionneur du Qatar à la Coupe du Monde 2022, c'est ça que vous voulez dire?
C'est un poste qui est pris, mais il y a d'autres, il y a d'autres pays qui peuvent s'intéresser à lui. Il y a des pays qui, après l'Euro,
je ne vois pas s'engager. Moi, à un an de récupérer l'équipe de France, je ne vois pas pourquoi il irait s'engager. Là, je pense qu'il a besoin de souffler. Peut-être
qu'il va se refaire la cerise.
J'en sais rien. Ouais. Peut-être qu'il prendra un club. J'en sais rien. Mais là, c'est le meilleur moment pour souffler et récupérer l'équipe de France.
Il a déclaré l'année dernière à nos confrères de l'AFP dans une grande interview comme ça. Il en donne de temps à autre, très rarement, malheureusement. Mais il avait dit, pourquoi pas un jour entraîner l'équipe de France? Mon histoire avec les Bleus a été belle. Si un jour elle doit continuer, cela se fera naturellement. Il va pas être entraîneur de l'OM, Marc Libra.
J'aimerais bien, moi.
Oui, je crois que vous n'êtes pas le seul.
La suite logique, oui, c'est les Bleus, mais attention, après l'Euro, si l'Euro ne fonctionne pas, non, mais on sait pas, on va voir.
Parce que là, on est en train, ce que j'entends de vous, hein, camarades, c'est que, en fait, ça y est, c'est écrit, et c'est une évidence, c'est sûr. Tout de suite, là, après le truc, c'est lui qui
se fait. Après Deschamps, je vois pas qui, quand il y avait Deschamps, on se posait la question.
Déjà après la Coupe du Monde 2018, c'est vrai que l'avenir de Deschamps n'était pas décidé, il y avait
et où
déjà
il
n'était
pas revenu
Zidane.
Où il n'était pas revenu encore Zidane, c'est vrai.
Il faut que ce monde-là se mette d'accord aussi.
On parlait des critiques envers Zinedine Zidane. On a beaucoup entendu les critiques ou les doutes. On dit que c'est un bon manager, on dit que c'est un bon meneur d'hommes, voire meneur de stars. Par contre, il y a des doutes sur son côté tacticien. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, Marc Libra?
On va rappeler, il a gagné quoi? 3 Ligues des Champions en l'espace de 5 ans.
Mais non, c'est un refrain qu'on continue d'entendre.
C'est trop facile de dire ça. Parce que quand il a été capable, en huitième, en quart et en demi, en huitième et quart, de sortir les Modric, que tout le monde disait, ils sont foutus. C'est pas que tactique. Il se passe aussi des choses. Il met des choses en place. Il y a des joueurs. On peut se poser sur le rôle de Marcelo. Pourquoi Marcelo est resté aussi longtemps sur la demi, c'est ça? Ou Marcelo? Mais à l'arrivée, son équipe, avec ce qu'il a passé, jusqu'à la dernière journée, il peut jouer le titre. Et si la veille, enfin une semaine avant, ils font pas un nul, un mercredi soir, dans leur terrain, d'entraînement...
Et une histoire de pénalty.
On parle autrement, on minore son boulot.
Mais comme d'habitude, faut se rappeler, quand il arrive en 2017, il y a un joueur qui s'appelle Casemiro, qui joue jamais, à partir de maintenant, c'est toi la star. Il a mis Casemiro. Tout le monde disait, mais c'est pas possible. Regardez, Casemiro joue ce qu'il est devenu.
Moi, je trouve pas que ce soit tactiquement, je le trouve plutôt bon d'ailleurs. Contre Liverpool, il avait été excellent. C'est surtout dans le jeu, en fait. C'est plutôt quelqu'un de pragmatique, un peu comme Deschamps. Et effectivement, dans le jeu, quand on entraîne le Real Madrid, on s'attend à une exigence de qualité de jeu. Et c'est vrai qu'avec Zidane,
on va dire un style de jeu, mais au moins une qualité du spectacle.
Il y en a eu d'autres qui ont fait pire que lui, qui est arrivé avec des noms plus ronflants.
Mais on ne peut pas dire que le jeu du Real de Zidane soit flamboyant et magnifique.
Certes,
il est pragmatique.
Est-ce qu'il faut être nécessairement aujourd'hui, parce que c'est un peu le débat qu'on a dans les rédactions et puis les supporters, bien entendu, est-ce qu'il faut être nécessairement un scientifique, entre guillemets, un grand chercheur, un grand penseur pour être un grand technicien? Il y a des gars qui sont des grands penseurs et puis ils arrivent à rien.
Tu gagnes la Coupe du Monde, t'es pas la meilleure équipe. Champion du monde sans avoir la meilleure équipe. T'en as deux devant toi qui sont la Croatie et la Belgique, qui jouent mieux que toi, mais tu gagnes pas. Ouais. Donc, ça se tient.
Ce qu'il y a, c'est que peut-être Zidane, alors on rappelle tous ces titres, c'est donc 11 titres, il y a des titres de champion d'Espagne, il y a des coupes, des super coupes, et évidemment, tous ces coupes de Ligue des Champions. Est-ce qu'il n'était pas venu aussi pour renouveler l'effectif, Bruno? Est-ce que peut-être que l'histoire Hazard a aussi été un peu un boulet pour le renouvellement?
Clairement.
Parce qu'il a été payé très cher, pour l'instant deux saisons
blanches. Oui, c'est plus de 120 millions, c'est 135 millions d'euros qu'il a coûté Eden Hazard pour un joueur qui avait 100, un an de contrat. Bon. Mm-hmm. Donc il a été payé extrêmement cher. Et puis surtout, au-delà du prix du joueur, c'est qu'on attendait son apport sur le terrain. Eden Hazard, c'était un des meilleurs joueurs de la Première Ligue. Il arrivait au Real plein d'ambition, comme ce qu'il disait. Et de jouer, de porter ce maillot blanc, en plus d'être entraîné par Zidane.
Et il s'est mouillé, Zidane, en plus, là-dessus.
Et oui, bien sûr. Voilà. Et on était très déçus de son rendement. Et forcément, la formation de Zidane en a pâti. Mais après, je trouve pas que Zidane est quelqu'un qui venait pour renouveler en fait l'effectif. Au contraire, il s'est appuyé sur les anciens, sur ceux qu'il avait aidé à gagner,
oui,
sur ceux qui l'ont fait gagner.
Il y a quand même eu des, par exemple, on se souvient du Brésilien Vinicius qui disait « il me fait progresser ». C'était un très jeune.
Même des vieux, il les a fait progresser.
C'est le but.
Heureusement qu'un joueur qui plus est offensif peut progresser au contact de Zidane, qui était un joueur extraordinaire.
C'était des jeunes là en l'occurrence.
C'est pas lui qui les avait fait venir, c'est pas lui qui les a choisis en plus. C'est bien le problème au Real Madrid, c'est qu'on a recruté des joueurs très très chers et le Real a recruté énormément ces dernières années, plus de 300 millions. Mais je trouve que pour moi, c'est la politique, c'est l'échec d'une politique, celle de Florentino Pérez, qui est parti dans une direction plutôt que celle de Zidane.
Absolument, Bruno. Ouais.
Une dernière question. Les rumeurs autour de Mbappé, d'un éventuel départ de Mbappé de Paris, et on parlait beaucoup peut-être de ce magnétisme qu'il y avait entre les deux hommes, entre Mbappé et Zidane. Est-ce que du coup, ça rend le Real moins attractif, selon vous, pour Mbappé?
Non, je crois
Franck,
pas.
Non,
je crois pas.
Ça rentre pas en ligne de compte.
Ça pouvait dans des discussions par rapport à ce qu'il représente.
On dit
parce
qu'il s'appelait régulièrement,
qu'il
se parlait.
Ça a pu jouer précédemment, mais bon là, voilà, la donne est changée. Et pour autant, je veux dire, est-ce que on peut refuser? Est-ce que ça peut se refuser le Real Madrid dans une carrière? Il n'y a pas 50 clubs au-dessus hein, quand même. Hein.
Enfin, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur ce qu'on a vu, le Real peut se refuser. Si je suis Mbappé, je regarde un peu ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a 2-3 clubs qui sont capables de me récupérer.
À l'instant.
À l'instant T. Et sur ce que j'ai vu sur la saison et ce qui se passe avec les joueurs, je peux me dire que peut-être c'est pas le moment ni d'aller au Barça ni d'aller au Real Madrid. Ouais. J'ai d'autres clubs qui peut-être vont m'apporter. J'en parle pas d'argent parce que l'argent il va l'avoir. Il y en aura partout de l'argent pour lui.
Il en a déjà, je pense.
Non, mais t'en veux toujours plus. Tu le sais, ça c'est plus t'en veux, plus t'en veux.
C'est vrai.
Donc à l'heure actuelle, peut-être que je suis parisien encore une saison et j'espère parce que personne ne pensait que pendant un an et demi le football mondial allait s'arrêter.
C'est pas terminé. Hein.
Non, mais si
elle
tu veux,
stagner,
si,
comme ça,
si ça redémarre, tu peux te dire qu'il va y avoir un peu du monde, ça va réévoluer, les gens vont aller dans les stades, ça va. Pour voir. Donc je pense qu'il va faire son année peut-être
à Paris. Il peut temporiser, effectivement.
Et l'année prochaine, voir qu'est-ce qu'ils ont fait, le Real. Qu'est-ce qu'ils ont monté? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Le Barça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Bayern, sans Lewandowski ou Lewandowski, qu'est-ce qui se passe? Et Manchester City, est-ce que ça va continuer ou pas? Parce qu'ils sont quand même assez réguliers. Sur 5-6 ans, c'est régulier, le Manchester City. Donc. Et il peut aller jouer partout, lui. Tu vois, pour moi, il peut jouer partout. Donc, je tendrai un tout petit peu.
Bon. Eh ben, on verra. Selon vous, quel club, maintenant, si Zinedine Zidane devait rebondir demain, quel serait le club qui serait à la hauteur de la légende et...
L'OM. Simplement. Annie, merci, au revoir. On va y aller. À bientôt.
Non, mais là, tout naturellement, c'est son lien avec la Juventus Turin.
Ouais, alors on disait
plus
ça,
naturel.
Mais vraisemblablement...
Ça reste un club d'une... très grande stature au niveau européen qui peut lui permettre de prétendre à la Ligue des Champions.
Là, il va peut-être attendre aussi que ce soit un peu plus...
Si on attend toujours le bon moment pour aller dans un club, parfois on laisse passer les trains et puis on les rate. Quoi.
Tu parles en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, c'est autre chose. Là, en tant qu'entraîneur,
c'est plus dur, je pense. Quand t'es joueur aussi, que tu vas au Real Madrid, tu vas pas pour l'entraîneur, tu vas pour toi, pour t'inscrire sur la durée. Et puis déjà, voilà, de briller,
si d'arriver... Si t'aimes bien, c'est plus facile. Hein.
Non, mais ça te laisse du temps d'adaptation aussi. Tu sais
regarde
que la pression sera pas sur toi.
Ndombélé, il pas bien maintenant. Ndombélé.
Plus compliqué, le Barça. Hein.
Ouais,
le
non, mais d'accord.
Barça.
Ouais, oui.
On verra ça et on suivra à la trace le grand
mais
Zinedine
l'OM reste en
port. Zidane.
L'OM est là. Non, mais l'OM est là, les amis.
Ah, mais il a pas perdu l'accent hein, de cette ville. Donc,
ça se perd pas, Annie. Hein,
ça peut servir
jamais
de passeport.
Jamais de la vie.
Bon, on sait jamais. Avant de continuer à parler d'entraîneurs, parce que ça bouge un peu partout en Europe, on va quand même rester en Espagne, parce qu'on voudrait rendre hommage à des grands champions hier soir.
Yellow submarine. El submarino va a levantar dentro de muy poquito su primer título en Polonia.
David De Gea then to take the penalty. It's 11-10 to Villarreal. David De Gea runs up now, right footed. Rooney makes the save away towards his left.
El Villarreal, campeón de la Europa League. 22 penalties.
Ils ne l'ont pas fait, mais Manchester aurait pu avoir plus de chance. C'est nous qui avons eu plus de réussite qu'eux. Et puis sur la séance de pénalty, la différence s'est faite avec notre gardien, qui peut tout faire, contrairement au leur.
C'était une finale très intense. Les pénaltys ont duré une éternité pour tous.
C'est historique.
C'est historique. Une ville comme Villarreal avec 50 000 habitants qui gagne un trophée. C'est la plus petite ville à soulever une coupe européenne.
La ville la plus petite à levantar la Copa de Europa.
Un titre qui sème la joie, mais vous l'aurez sans doute noté, messieurs, vous qui avez dû suivre ce match hier, il y avait une donnée qui nous paraît maintenant surréaliste, mais c'était bien vrai, il y avait des supporters dans le stade. Alors bien sûr, il n'y avait pas 50 000 personnes, il y en avait 10 000 je crois. C'était 9 000,
2 000 pour les supporters, et après
quelques
les locaux,
quelques Polonais. Ça changeait tout quand même, Marc, non?
Ouais, ça changeait tout.
Même à l'image, quoi.
Les effusions de joie où ils vont vers le public et on voit des visages en face et on ne voit plus des fauteuils avec des pubs.
Le capitaine Villarreal, quand il s'adresse au public pendant la séance des tirs au but, c'est vachement émouvant. Quoi. On est heureux de les voir, ces images.
Et il y avait même certains qui avaient filmé de dos les parents, la famille du gardien de but de Villarreal.
Rouli.
L'Argentin.
Et ils étaient là sur le côté du but, en plus là où ont été faits les tirs au but. Enfin, du coup, ça, on a l'impression que le monde d'avant va peut-être...
On s'en persuade, Annie, en tout cas.
On essaye. Bon. En tout cas, un sous-marin jaune donc a fait surface à Gdansk et Villarreal a remporté sa première coupe européenne. C'était donc celle de la Ligue Europa au terme d'un match peut-être pas excitant. Un score d'un partout à la fin du temps réglementaire. Donc, il y a eu des prolongations et puis il y a eu cette séance de tirs au but. Alors, c'était évidemment un contre Manchester United. Cette séance de pénalty, c'est mal fini pour les hommes de Solskjaer. À 10 tirs partout, les gardiens ont été appelés. Et c'est le tir de l'Espagnol David De Gea qui a été arrêté par son adversaire argentin, donc Geronimo Rulli.
La pache.
D'abord sur la victoire. Alors, je vois un gardien ici, mais Marc, d'abord.
Un vieux, alors.
cette séance de pénalty, on a l'impression que ça allait durer toute la nuit parce que tout le monde les tirait admirablement.
Ils n'ont pas tous été tirés admirablement bien. Certains, Rulli peut les arrêter deux fois.
Et même De Gea
aussi.
De Gea peut l'arrêter aussi avant. Ouais. On se dit, ça va continuer parce qu'il y en a vraiment.
Mais ça passait.
C'est-à-dire qu'il y en a deux ou trois où il est dessus et la main, hop, c'est fragilisé. Bon, elle passe.
Dans l'ensemble, il était bien tiré quand même.
Exactement. Je te dis, à deux, trois pénalties. Mais tout le reste.
Sur la toute fin, tu as raison.
Tout le reste, c'est magnifique parce que je crois que le dixième tireur, il frappe fort, mais au milieu sans regarder le défenseur. Mais à l'arrivée, ça se joue à peu de choses. Et De Gea, dans son attitude, ce que j'ai trouvé surprenant des gardiens, c'est qu'il n'y a pas eu plus de coups de bluff. Peut-être le manque de public qui a fait ça. Et on a vu De Gea à la sixième et septième qui vient un peu vers l'arbitre. Et dessus, l'arbitre français qui vient, qui dit hop, reculez. Mais je pense qu'il y aurait peut-être un petit peu plus de coups de bluff de la part des gardiens.
Il n'est pas dans l'intox.
Et ça ne s'est pas vu.
Non, mais il a tenté des choses. Mais
ça ne s'est pas vu. C'est dommage.
C'est un peu le résumé, moi, je trouve, de la carrière de De Gea, qui est quelqu'un qui a une réputation de ne pas être un gros travailleur. Et moi, j'avais longtemps discuté avec Christophe Lolichon, l'entraîneur des gardiens de Chelsea
à l'époque,
qui avait été un des héros de la finale de Chelsea en 2012, parce qu'avec Petr Cech, ils avaient analysé tous les tireurs de pénalty. Et je crois que 7, il en avait arrêté 3 sur les 5, 4 sur les 6, un truc comme ça. Il disait que c'est un travail énorme. C'est un travail de préparation, en fait, la séance des tirs au but. On en parlait avant l'émission, ce n'est pas qu'une loterie. Il y a un peu de la loterie, mais pas que. Il y a aussi du travail. Et De Gea, sur tous ces tirs au but, il ne fait aucun effort. Il ne prend pas parti sur un côté. Il attend pas, il tente pas quelque chose. Et il y avait cette stat qui était épouvantable. J'espère que Ole Gunnar Solskjaer la connaissait avant de mettre De Gea dans le but pour les tirs au but. C'est que De Gea n'avait arrêté aucun de ses 25 derniers pénaltys en club. 25. Son dernier pénalty arrêté, ça datait de 2016. moi, quelque part, je me pose la question. Je me dis, est-ce qu'il fait l'effort nécessaire? Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il est bon dans cet exercice? Il y en a qui sont bons. Michael Landreau était très bon, par exemple. Et Dean Anderson, le gardien remplaçant, avait arrêté, lui, 8 des 17 derniers. En tout cas, il y avait 8 pénaltiers ratés face à lui.
Solskjaer, il a raté un truc qui se fait régulièrement en Afrique, pas plus tard qu'il y a quelques jours en arrière, avec un match très important en Ligue des Champions d'Afrique. Le gardien de l'Espérance de Tunis est remplacé parce que son équipe, à ce moment-là, a besoin d'un deuxième but. Il reste 10 minutes. Ils n'ont mis qu'un but. Il faut qu'ils en mettent deux pour pouvoir éventuellement jouer une séance de tir au but. L'entraîneur Moin Chaban de l'Espérance sort son gardien titulaire, mais son gardien remplaçant qui est aussi international a. Et il marque le deuxième but. Et pendant la séance des tirs au but, il sort 3 tentatives. Ça, en Afrique, ça arrive régulièrement.
Vous vous souvenez de Giras qui avait fait ça justement avec l'équipe de Tunisie à la CAN.
En 2014, les Pays-Bas avaient fait ça.
Oui, ils ont changé de gardien. Exactement. Ouais. Mais là, visiblement, effectivement, ce que tu dis, c'est un élément hyper important, quoi.
Puis je pense que la fraîcheur physique, psychologique peut aider aussi, parce que c'était une longue finale.
Mais il n'y a pas que ça. Imagine dans la tête de l'adversaire. Tu dis, pourquoi ils font rentrer celui-là? Qu'est-ce qu'il a, ce type-là?
C'est l'effet psychologique, effectivement. Bon, alors voilà, pour cette séance interminable. En tout cas, cette équipe de Villarreal, elle n'avait encore gagné que de coupes intertoto, d'une compétition autre européenne, mais jamais de grandes coupes et bien moins de Ligue Europa. Ils n'ont jamais non plus été champions d'Espagne. Ces 20 dernières années, en tout cas, pour les clubs espagnols, juste une petite stat en passant, 15 finales de Ligue des Champions ou de Ligue Europa pour un club espagnol. Quand ils ne sont pas, on a compté que celles qui ne sont pas face à un club espagnol, parce que sinon, ça, 15 victoires des clubs espagnols.
Et Unai Emery, c'est pas mal non plus, lui.
Alors, on va y venir, Unai Emery. Lui, c'est 4 victoires. Et alors, on parlait des 3 gagnés successivement en Ligue des Champions par Zidane. Lui, il l'avait quand même fait avec le FC Séville, 2014, 2015, 2016. Certes, en Ligue Europa, mais il l'avait fait.
Visiblement, ça vaut moins aux yeux de certains.
Aux yeux de certains, mais pour l'un des Français de l'effectif de Villarreal, Etienne Capoue, vous allez l'entendre, ça n'a rien d'une surprise.
Si quelqu'un a des doutes sur le fait qu'Emery est un bon coach, je pense qu'il devrait éteindre sa télé. Emery n'a plus rien à prouver. On a battu une équipe très forte aujourd'hui. Les gens ne réalisent pas à quel point Manchester United est une équipe très forte. Ils ont terminé deuxième de Première Ligue et je connais la Première Ligue. C'est vraiment une réussite pour eux. Ce soir, Unai Emery a réalisé un coup de maître et on a juste suivi son plan.
Ils ont suivi le plan.
C'est exactement ça.
Oui. C'est ça? Avec Unai Emery, on sait que d'ailleurs il avait essayé au Paris Saint-Germain d'imposer une manière de jouer.
Oui, mais le problème, c'est que on l'écoute pas. Et moi, je les ai commentés plusieurs fois cette saison en Coupe d'Europe, mais c'était presque logique qu'ils aillent au bout parce que c'est un plan qui est bien en place. Chacun respecte ses consignes et ça ne bouge pas. Et c'est comme ça.
Et qu'est-ce que c'est ces consignes?
Mais attendez, parce que là, messieurs, c'était quoi le plan là? Parce que Villarreal hier, c'est quand même abject au niveau du spectacle.
Ouais,
ils ont la chance de marquer un but sur coup de pied arrêté. C'est à peu près tout ce qu'ils ont fait dans le match.
Gérard Moreno qui est le seul joueur.
Et ensuite, ils ont défendu. Ils ont défendu à 20 mètres de leur but. Franchement, c'était. Moi, je veux bien qu'on encense Unai Emery. C'est très bien. C'est pas un hasard de gagner des finales comme ça, une série de finales d'Europa League. Honnêtement, petite parenthèse, si on PSG, on nous disait qu'on aurait été content avec une Europa League avec Unai Emery, je pense que ça aurait pas été le cas. On l'aurait descendu. Pareil. Mais je pense qu'il a trouvé un club à sa stature, où il y a moins de pression, où il peut travailler dans les meilleures conditions, où on le laisse travailler. Parce que je pense que c'est un très bon entraîneur. Mais hier, je suis isolé, il fait pas une grande finale. Ils ratent leur finale, et c'est surtout United qui a raté sa finale.
On va l'écouter, Unai Emery, parce qu'il dit qu'il s'est lancé en fait dans une nouvelle aventure avec Villarreal. C'est un nouveau projet.
Je suis fier car j'aime le projet de Villarreal. Pourquoi est-ce que je suis venu ici? Les dirigeants voulaient que je vienne, non pas pour remporter la Ligue Europa, parce que c'est difficile. Ils voulaient des résultats. Et comme je l'ai dit aux joueurs et au club, mon objectif est de travailler dans la continuité, en espérant disputer une Coupe d'Europe chaque année. Gagner une Coupe, c'est quelque chose qui est toujours dans notre esprit, et surtout à Villarreal, où les conditions sont réunies pour poursuivre des objectifs concrets.
Construye y crea circunstancias para poder contener esa oportunidad.
Alors c'est un club qui part d'assez bas, on va dire, par rapport à des clubs comme par exemple Arsenal qui a déjà connu plein de choses. Mais Franck, est-ce que Bruno dit c'est un club à sa hauteur, mais
dimension,
à sa dimension. Mais c'est pas un peu injuste de dire ça?
Non.
Certes, il s'est un peu les expériences à l'extérieur de l'Espagne sont pas toujours très bonnes, autant PSG qu'à Arsenal et même au Spartak Moscou, mais quand même, non.
Il s'y sent bien pour y travailler, pour peut-être aussi s'en servir, pas d'un laboratoire de travail, mais il a suffisamment, je pense, expérimenté, il s'est aussi suffisamment trompé par moments. Mais il s'y trouve bien. C'est d'abord sans doute un cadre qu'ils lui ont offert et qui correspond peut-être plus à sa personnalité. Ça ne veut pas dire que c'est un nul.
C'est pas péjoratif.
Je le prends. Je le prends comme ça. Je pense que c'est. Il y a des entraîneurs qui peut-être. Est-ce que Zidane aurait réussi là plus qu'au Real?
Non, mais c'est intéressant.
C'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est. Je veux dire, Zidane, il est associé à jamais à l'histoire du Real Madrid. Mais est-ce qu'il aurait pu réussir dans des clubs un petit peu moindres? On ne sait pas. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments probants, on va dire. Mmh. Et là, pour le coup, lui, il s'est testé ailleurs. Il a essayé ailleurs avec des effectifs et des super gros noms. Bon, ça n'a pas
toujours marché.
Non, ça n'a pas fonctionné.
Mmh. Enfin, si vous parlez de Paris, vous savez très bien qu'à Paris, c'est ingérable. Donc, le joueur qui n'est pas
pression,
content...
Oui,
Tuchel est passé par là aussi.
Tuchel, c'est un naze. Ouais. Il fait quoi samedi là au fait?
C'est ça.
Non, mais c'est pas. Bon, enfin, on a quand même.
On en a eu d'autres, des Ancelotti, etc.
Oui, non, mais donc il faut pas parler de Paris parce que Paris, c'est encore mon appart. Où je te trouve très dur, c'est qu'avec Arsenal, ouais, c'est pas le kiff, mais Arsenal, les joueurs font un peu ce qu'ils veulent. Ils vont quand même en finale de Ligue Europa. Et que si ça se passe bien avec Arsenal,
pas le contraire. Mais Arsenal est pas un des grands clubs anglais aujourd'hui.
Ah, mais
je suis d'accord avec toi.
C'est un club de second rang, dans le terme.
Et tu vas en finale de Ligue Europa, tu passes pas loin. C'est face à Chelsea, tu perds,
ouais,
c'est ça.
Tu perds en plus quand t'as un club anglais en finale.
Au pénalty, c'est ça. Tu perds en pénalty. Non, c'est la 7
non, 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 non. 3-0.
Non, voilà. Ils prennent une. Ouais.
Donc aujourd'hui, 4-1, une belle aujourd'hui, PC, c'est très dur parce que c'est vrai que certains journalistes français ont dit ah, mais Emery mérite même pas d'avoir des clubs. Mais cet homme-là, il a fait 4 Ligue Europa. C'est-à-dire qu'il a. Qu'est-ce qu'on a, nous, en France? On a
5
gagné.
Finales, 4
on a gagné une Coupe d'Europe avec l'OM, une avec Paris, bidon, soi-disant. Lui, rien que lui tout seul, il en a 4. Donc, on devrait juste avoir un peu de respect. Ce qu'il a été mis en place, on parle de Pedraza, latéral gauche, de Foyt dans l'axe, de Albiol, de tous ces joueurs-là, c'est bien en place. Ça ne bouge pas. Ils ont un rôle. Moi, j'ai joué avec des entraîneurs qui te disent, voilà, pendant 96, 95, Marco, tu vas jouer ton stopper libéraux. Par contre, si tu fais ça, ça va libérer le milieu gauche, ça va libérer le milieu droit. Et puis, notre défensive va pouvoir te passer de... Mais tout ça, c'est travaillé, c'est mis en place. Et que tu le veuilles... Enfin, je vois ce que tu veux dire. Mais si Manchester, hier soir, ils sont mauvais, parce que Greenwood, qui est un phénomène, soi-disant, que j'attends toujours, il n'est jamais passé de côté de Pedraza. Il est passé combien de fois ça a réussi.
C'est le seul qui est passé en première mi-temps, deux à trois fois.
Ça a été dangereux, officiellement aussi.
Oui, il y a une occasion avec Cavani, qui est repoussé par un défenseur. Ouais. Si, ça a été... Je dis surtout pas que Emery est un mauvais entraîneur. Je dis juste qu'il y a des entraîneurs,
Marc,
comme le disait
Marc,
Franck.
Marc, c'est un bon avocat, en tout cas.
C'est un dispositif qui est mis en place. Et tu sais bien que sûr. Tu vas jouer dans un rôle qui est parfois ingrat pour certains joueurs. On va leur mettre des notes caca-boudin dans la presse. Mais par contre,
c'est pas ça qui est important.
Je le sais, mais quand on est joueur, on le sait. Mais par contre, celui, par exemple, qui va dire « Ah, mais on s'est ennuyé. » Et hier soir, j'entendais au Manchester, ils ont été nuls. Mais s'ils ont été nuls, c'est que peut-être qu'en face, vous avez eu quelqu'un qui, pendant...
Ça, c'est un élément de compréhension de la finale. Foyt, il s'ouvre
la tête, il est ouvert en deux, il a joué tout le match, il voyait rien. Par contre, il a pas lâché son mec. Hein. Et en face, on a... Non, mais Pogba qui faisait « Ouais, je Pogba Benz. » Ouais. Alors, à la 60e, ben finalement, « Attends, je vais changer, je vais le monter couloir gauche parce qu'il est meilleur. Tu mets pas Fred dès le départ, tu mets... » C'est n'importe quoi, mais parce qu'il a été complètement...
Là,
il n'a pas
parler,
su réagir.
On peut parler d'un tacticien. Après, voilà, il a exact, fait... Mais les finales, elles ne sont pas faites pour enchanter, tu le sais bien aussi, Bruno. Elles ne sont pas faites pour nous faire rêver. Quand on en a une qui est super, on est content. Je pense que dans leur parcours, ils ont eu des matchs...
Oh, ils n'ont pas perdu un match.
Ouais, 16, voilà, bien meilleur. 16
matchs,
dans le contenu,
15 matchs.
Mais tu t'en fous, tu gagnes à l'arrivée. Donc pour eux...
Mais moi, je dis attention, je ne dis pas que c'est un mauvais entraîneur. Je dis juste qu'il y a des entraîneurs de grands clubs, de très grands clubs, et des entraîneurs de clubs de seconde zone qui peuvent faire progresser. Parce qu'il fait progresser ses équipes.
Mais Bruno...
Mais dans un vestiaire au PSG où il y a des stars, il a été incapable de gérer. Dans un vestiaire à Arsenal où il y avait quelques stars, et on va dire des demi-stars, il n'a pas été capable de gérer. Il a été envoyé bouler par son vestiaire. Ouais. Et ça, c'est terrible.
Parce qu'il ne respecte rien.
C'est un constat. Oui, mais c'est un constat qui est terrible. Il y a des entraîneurs comme
c'est
ça.
C'est générationnel, Bruno, malheureusement, je crois.
Expliquez-nous pourquoi les Mancuniens, qui étaient quand même favoris, se sont comme ça, ont fait pchit. Hein,
pour moi, ils n'étaient pas favoris. Hein. Moi, je les suis aussi.
Ouais. Ils étaient grands. Enfin, pour moi, c'était favoris quand même. Vu l'effectif, tu t'attends à ce que
Manchester gagne. Oui, voilà, c'est ça. Pogba, Bruno Fernandes, Rashford, Luke Shaw.
Sur des noms, alors.
Sur le papier.
Non, bien sûr.
Sur des noms, sans doute.
Non, mais bien sûr, deuxième de première ligue et tout ça, on se dit, bon, quand même.
Mais sur le match, ils ont été meilleurs que Villarreal. Hein. Ils se créent énormément d'occasions. Il y a une balle de Rashford qui rate complètement son geste seul face au gardien. C'est un des tournants majeurs. C'est comme le raté de Sterling avec Manchester City face à Lyon. Des fois, ça se joue aussi, les finales ou les matchs se jouent sur un détail, sur une action comme ça. Mais je trouve qu'ils étaient fatigués, usés, qu'il y avait énormément de déchets techniques.
Ça manquait presque, alors je dirais pas d'envie, parce qu'évidemment, ils sont compétiteurs, ouais, mais on avait cette sensation que c'était un peu mou, quoi.
On a l'impression qu'ils étaient pas dedans, qu'ils jouaient pas vraiment une finale.
On va pas leur trouver des excuses non plus. Hein.
Non, bon, de toute façon. Ils ont.
Pour moi, ils sont vraiment, ils ont été perturbés, ils sont passés à côté de leur finale. Pogba, il y a pas un joueur, à part Cavani, qui s'est un peu bougé. Ouais, tout le reste, ils sont passés à côté, mais complètement.
Au moins, ces coupes européennes ne seront pas un monopole de clubs anglais. Hein, voilà, désolé, exactement. Bruno.
Puis, quand on n'a pas d'argent, eh ben, on peut gagner quand même des coupes.
Exactement.
Ça aussi, c'est un.
Comment ça s'appelle
Ça, c'est un Yellow un bon submarine. Message pour les clubs français, ça.
Exactement. Ouais.
En tout cas, on va continuer. On va continuer à parler d'entraîneurs. Avec donc cette. On peut dire avis de tempête hein, sur les bancs européens. Alors évidemment, on vient de parler d'Zinedine Zidane parce que c'était sûrement un club star et un entraîneur star. Mais par exemple, prenons les champions d'Italie et de France. Antonio Conte n'est plus l'entraîneur des Nerazzurri. Drôle d'histoire hein, parce qu'on s'en souvient, Matteo Cioffi d'ailleurs nous l'avait raconté sur cette antenne. Ils gagnent, ils sont encore... hyper heureux de ce 19e Scudetto, ça fait 10 ans qu'ils l'attendent à l'Inter de Milan. Et tout d'un coup, le propriétaire arrive, un Chinois, et il dit « Ouh, il a des déficits stratosphériques, hein, évidemment, comme dans ces milieux-là. Et donc, on va serrer les boulons. Il arrive pour parler d'austérité, il arrive pour, en gros, licencier un peu tout le monde. Et Antonio Conte, alors on connaît le côté volcanique, mais il a décidé de claquer la porte avec 7 millions d'euros.
Ouais, ça aide, oui. C'est une porte, mais il fallait passer la charrette avec les.
Vous avez
les
un
billets.
Message à faire passer, Franck,
pas du tout, j'ai pas rien à faire passer. Non, mais, mon ventre là, peut-être faut... à faire passer, c'est tout.
Là, faut être honnête, que le club ait des difficultés financières, il est comme tous les grands clubs européens. Oui. Tous les clubs européens ont des difficultés.
Et enfin, le Chinois, il avait un club, il a plus de 100 millions d'euros de pertes. Il a mis la clé sous la porte de son club chinois qui était champion de Chine et tout. Donc, c'est quand même Suning, là, ça va pas trop fort.
Inter Milan, c'est quand même un club qui a beaucoup recruté ces dernières années quand même. Oui. Antonio Conte, le problème d'Antonio Conte, c'est qu'il a eu exactement le même problème à Chelsea, où il se plaignait sans arrêt de ne pas recruter, de ne pas avoir la main pour recruter les joueurs qu'il voulait. Il veut sans arrêt les meilleurs joueurs.
Mais là, il ne voulait pas qu'ils partent. Parce qu'apparemment, du coup, le propriétaire voudrait vendre les meilleurs, hein, j'imagine. Lukaku, Martinez.
Du trading, du trading.
À un moment donné, un club, c'est aussi une entreprise. Il faut, à un moment donné, on est obligé de vendre.
Et bon, comme alors, le club il a eu raison de partir.
Je ne sais pas s'il a eu raison. Le problème, c'est que quand ça ne va pas dans son sens, quand on lui donne pas ce qu'il réclame, mais quand il réclame, c'est réclamé, hein, c'est frapper à la porte toutes les semaines, c'est gueuler,
c'est
volcanique, hein, ouais. Il grogne, voilà. À un moment donné, quand il n'a pas ce qu'il veut, il claque la porte avec fracas et beaucoup d'histoires. Ça s'est passé à Chelsea, ça s'est passé à l'Inter, ça se passera dans son prochain club. Il fonctionne comme ça. C'est comme ça qu'il a des résultats. Comment ?
Il était bien parti de la Juve. Ça s'était bien passé quand il était parti de la Juve.
Je crois pas. Je crois que ça s'était fini dans des contextes un peu particuliers.
Mmh. Ouais.
Marc. Non mais
7 millions.
Cette équipe, voilà. Du coup, l'année prochaine, on va la voir en Ligue des Champions et
si c'est pour faire comme la dernière fois en Ligue des Champions,
voilà.
L'Inter,
ils avaient été boulés en Ligue Europa. Oui.
Ça aussi, ça compte. Hein.
Tout dépend si ça va redémarrer, enfin s'il y a un petit peu de public, si ils vont pouvoir conserver leurs joueurs, cet effectif, ce qui est quand même un effectif qui est plutôt sympa. C'est Hakimi, on ne sait pas ce qu'il va devenir aussi.
Oui.
Donc,
il ne sera pas gêné, je pense qu'il a des offres.
Non, mais voilà. C'est l'interrogation de savoir.
Oui, mais le groupe va être démantelé.
C'est surtout Lukaku, là. S'il se sépare de Lukaku, qui est quand même la pierre angulaire du système Conte, enfin, du succès de cette équipe.
La figure, oui.
Il y a de quoi se poser des questions. Mais s'ils le vendent, ils vont récupérer de l'argent. Avec l'argent qu'ils récupèrent, Conte, s'il est malin, il recrute des joueurs intelligemment, il a un réseau.
Il n'a pas cherché à le faire.
Il y a un Américain qui leur prête 275 millions d'euros sous forme de prêt.
Pas ma courte.
Je sais pas. C'est un nom, peut-être. Il s'appelle Oaktree Capital. Bon, je sais pas qui est derrière. Parlons du champion de France.
Il va peut-être. On n'a pas dit où pourrait atterrir Antonio Conte.
Non, et ben vous savez.
Avec ce qui se passe, vu ce qui se passe au PSG, je serais pas étonné. Avec ce qui se passe au Real, qui rebondissent assez vite, Antonio Conte.
Oui, c'est effectivement du Real. Du côté du Real,
je verrais plus au PSG qu'au Real.
Ah, ça me ferait rire. Ah ouais, c'est vrai. serait pas mal.
Parlons du champion de France. Oui. Le champion de France, c'est à peu près pareil. Alors, on connaissait depuis longtemps le projet de Lille, où chaque année, on recommence à zéro, un peu comme le faisait Monaco à une certaine époque. Là, eh bien, c'est pareil. Le champion de France démantelé. Les Dogues, théoriquement, on dit hein, que si on calcule bien, qu'il ne resterait que trois des titulaires. Mmh. Et de toute façon, celui qui a montré déjà le chemin, hein, c'est Christophe Galtier. Au lendemain du titre, au surlendemain du titre, au lendemain de la parade dans Lille, il a dit « je m'en vais ». Vous trouvez ça comment
Je trouve qu'il a tenu depuis 2017, depuis qu'il est arrivé dans les conditions. Je trouve que c'est bien déjà. Je pense qu'il est arrivé au bout de son projet.
Mais il acceptait en plus, lui, cette espèce de projet de « on recommence à zéro chaque année ».
Ah non, mais si vraiment... Parce que si on l'annonce, paraîtrait à Nice pour un projet sportif à Nice.
On l'annonce du côté de Lyon aussi.
On l'annonce à l'OL. Si on laisse travailler, que ça soit à Saint-Etienne, puisqu'il a été quand même formateur, il a été dans le petit papier depuis 2000. Il est adjoint, il a été adjoint de beaucoup d'entraîneurs, il a été champion avec des entraîneurs reconnus. Donc il est passé partout. Quand il récupère Saint-Etienne, eh bien, il a grandi en tant qu'entraîneur. Il a poussé cette équipe jusqu'à une victoire de Coupe de la Ligue. Bon, ben aujourd'hui, il est arrivé au bout du bout de ce qu'il est capable de faire. Il est capable de repartir.
C'est pas choquant, franchement.
Non, c'est pas choquant. Je trouve que c'est plutôt.
Mais du coup,
par rapport à lui, je crois que c'est beaucoup de respect pour ça.
La question, peut-être, c'est Lille l'année prochaine en Ligue des Champions.
Oui, c'est bien.
Mais il a connu, hein. Il a connu, lui, hein.
Oui.
Oui, non, mais là,
celui qui lui succédera, effectivement, il va falloir tout reconstruire avec peu de temps. Je sais pas quelle sera l'enveloppe. Parce qu'on n'a plus forcément les mêmes personnes qui travaillent pour faire de cet effectif de qualité. Et puis surtout, c'est comme un puzzle là. Ce qu'avait fait Campos, c'est assez incroyable. Mmh. Il l'a bien réussi. Après, effectivement, tu perds le chef d'orchestre. Il faut en plus recruter un nouveau chef d'orchestre et des nouveaux musiciens. Et c'est pas dit que l'orchestre joue, que ça soit très harmonique. Hein.
Et puis il y a surtout le départ de Luis Campos qui fait mal parce que c'est tout reposé
Quand
même sur lui.
Est-ce qu'on est là dans l'illustration parfaite de ce qu'est le football d'aujourd'hui, c'est-à-dire du trading, comme on dit, c'est-à-dire on achète des joueurs pour les revendre meilleurs l'année d'après, plus d'appartenance à un club, ou très rarement.
C'est le propre de ce club-là, parce qu'ils sont partis dans cette direction-là, mais il faut se souvenir de Montpellier. En fait, c'est le propre aussi des petits clubs, entre guillemets, qui gagnent le titre et qui, derrière, voient ses talents s'envoler. C'était le même cas avec Montpellier. Ça a été le même cas avec l'AJ Auxerre quand ils formaient les joueurs et qu'ils avaient des succès.
Se renouveler systématiquement.
C'est comme ça, on est plus petit que les autres, donc à un moment donné, on est obligé de vendre ses meilleurs joueurs, et c'est comme ça aussi que le club vit. Après, je suis pas sûr que Lille va vendre les trois quarts de son effectif.
Ouais. Moi, je demande à voir aussi.
Moi, je suis pas sûr non plus, parce qu'avec le marché qui s'annonce et le peu de transferts qui risque d'y avoir,
le manque d'argent pour beaucoup de clubs.
Il faut qu'il y ait des flux d'argent pour que ça arrive jusqu'à nous. Et pour l'instant, on les voit pas les flux.
Je vois pas qu'ils vont prendre 13 ou 14 joueurs. Tiens, je suis dirigeant club, je veux des joueurs de Lille.
Ou alors à des prix qu'on n'estime pas aujourd'hui, qui sont plus près de 15, 20, 25 millions d'euros plutôt que 40, 50. Hein.
Bon, en tout cas, ils ont déjà vendu Mike Maignan, le gardien numéro 3 de l'équipe de France. Il est parti du côté du Milan AC, pas l'Inter, et il a signé un contrat de 5 ans. Ouais. Et il succède à Donnarumma. Galtier à l'OL, vous pensez que ça serait possible? Non,
moi, j'aimerais pas, moi. je vois pas c'est quelqu'un qui commande tout, qui gère tout et qui veut mettre quelque chose en place. Je ne sais pas si à Lyon, il y a toujours cet effet, le centre, les jeunes du centre, ceux qui montent. On a vu Juninho, ce qui s'est passé avec Juninho depuis 2 ans. Bon, je sais pas. Pas évident.
Bon. Eh ben, on suivra ça évidemment dans Radio Foot International et on vous donne rendez-vous pour le Café des Sports demain. N'oubliez pas notre rendez-vous en son et en image désormais. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à ce Radio Foot en cette fin d'après-midi. Et toute l'équipe vous dit donc à demain.
Une semaine d'actualité.